Protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne. Bonjour, protestants au pluriel, Yolande au micro pour vous faire découvrir la richesse du protestantisme français. En effet, nous allons à la rencontre des églises et membres de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le mouvement protestant, la CIMAD, représenté par Monique Guyot-Berny, présidente. Bonjour Monique.
Bonjour Yolande.
Comme d'habitude, on commence par le plus simple. Est-ce que vous avez un slogan qui définit votre mouvement ?
Je pense que c'est une idée, une petite phrase qui est « Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre » que de manière assez personnelle, je modifie en disant « Nous sommes tous étrangers sur cette terre » et d'ailleurs elle ne nous appartient pas. Ça dit quelque chose d'extrêmement profond sur le fait que nous soyons hommes, femmes, enfants, dans une forme d'égalité qui devrait être une égalité de droit, mais qui ne l'est pas.
Vous avez un verset biblique, il doit y en avoir plusieurs qui représentent.
Alors, il y en a plusieurs et j'en ai mis quelques-uns de côté, mais peut-être un qui vous parlera, qui est Hébreux 13, de 1 à 6. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, quand en l'exerçant, certains d'entre nous nous ont, sans le savoir, accueilli des anges. Et j'aime aussi beaucoup dans le Lévitique 19, 33, 34. Quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet immigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. C'est moi, le Seigneur votre Dieu. J'en ai d'autres, mais deux, c'est bien.
C'est bien. Alors, on a compris que vous adressez aux émigrés, donc aux immigrés qui sont en France, qui sont chez nous. Est-ce que vous pouvez expliquer en une phrase ce que c'est la CIMAD pour nos auditeurs qui, s'il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas la CIMAD?
Alors, je vais dire déjà ce que veut dire le mot CIMAD.
Oui.
En fait, nous disons aujourd'hui la CIMAD, mais c'est le CIMAD. C'est un comité intermouvement auprès des évacués. On pourrait dire aujourd'hui les évacués, ce sont les exilés. Le E conviendrait très bien. Mais les évacués viennent de la naissance de la CIMAD au moment où les Alsaciens-Lorrains ont été évacués du territoire étant sur la frontière franco-allemande, ont été déplacés dans des camps au sud-ouest de la France. Et à ce moment-là, les jeunesses protestantes se sont organisées pour assurer une présence dans les camps, tout d'abord un peu humanitaire, des couvertures, partager des repas. Très vite, c'est devenu une présence culturelle et de défense finalement d'une vie sociale, les uns avec les autres, puisque tout le monde sait que après les déplacés d'Alsace-Lorraine, ces camps ont été fermés et nous avons, nous, je dis parce que c'était le régime de Vichy, qui s'est mis un peu à la botte du régime nazi, donc de l'occupant, a transformé ces camps qui étaient des camps d'accueil mais aussi de mésaccueil, puisque les Alsaciens-Lorrains avaient un accent allemand et étaient perçus comme l'ennemi. Dans ces camps fermés, les réfugiés espagnols, les juifs, les tziganes ont été internés dans des conditions dont on sait aujourd'hui que c'était absolument terrible. Et la CIMAD, du premier engagement solidaire, s'est engagée plus vers la fuite de personnes. Donc les jeunes engagés essayaient d'extraire les personnes et qui se réfugiait sur le plateau Sévenol, qui était accueilli, vous devez le savoir, dans certains lieux. Mais aussi, les militants de la CIMAD ont édicté, ont fabriqué de faux papiers pour sauver un certain nombre de personnes jusqu'en Suisse. Donc, d'une association d'humanité, humanitaire, c'est devenu une association jusqu'en 1945, d'aide aux personnes persécutées.
Et donc, on a compris ce que c'était que la CIMAD, vous l'avez très bien expliqué, et vous-même, donc, vous ne voulez pas qu'on emploie le titre de présidente, mais vous préférez le verbe d'action, présider. Alors, qu'est-ce que c'est que, quelle est la particularité principale de votre action de présider ?
Présider, j'ai mis 2 mois avant de définir là où pouvait être la place qu'on m'avait confiée. Et j'y vois vraiment une mission très importante pour créer cette synergie à l'intérieur de la CIMAD. Nous sommes quand même 2700 bénévoles, 4000 adhérents. 140 salariés travaillent avec les bénévoles. Ça n'est pas rien. Nous sommes présents dans 98 groupes locaux qui sont répartis sur 13 régions, y compris les Outre-mer. Et cette idée à l'intérieur, c'est de pouvoir ne pas gaspiller des énergies, mais les mettre en commun, parce que nous avons des capacités différentes les uns et les autres, des positionnements différents. Et ça demande à l'intérieur de favoriser ce travail en commun, en collectif. Ça, c'est l'interne. Mais l'externe, et voilà, je suis là parce que vous nous avez invités et je trouve ça à nouveau, je vous le dis, super, extraordinaire, parce que vous donnez la parole à des personnes qui croient vraiment en quelque chose. Donc, c'est aussi à l'extérieur de la CIMAD pouvoir s'exprimer. Et je crois que nous essayons de le faire au mieux, donc cette communication externe qui est confiée à une équipe, mais on y a tous un rôle, nous avons tous un devoir de participer à ça, et aussi, présider pour moi, c'est pouvoir travailler avec des alliés, ça peut être des associations, ça peut être des organismes, peut-être des collectivités, probablement là où nous sommes dans la grande maison du protestantisme, nous avons aussi des structures avec lesquelles nous sommes en contact et nous devons mêler nos voix pour défendre ce qui nous semble plus important.
Vous parlez de la maison du protestantisme et j'aurais une question. Comment se vit l'identité protestante dans votre mouvement? Puisque maintenant, ce n'est plus seulement un mouvement protestant, c'est un mouvement très largement ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il reste de protestant à la CIMAD?
Alors, je ne sais pas si on peut dire « il reste », mais ça habite. À la fois, vous avez raison, nous ne sommes plus un mouvement protestants. Nous sommes quand même un mouvement qui... Nous sommes adhérents de la Fédération protestante de France.
Et
nous
en parlera. On en parlera à la fin.
Entendu.
Oui.
Excusez-moi, non, je vais trop vite. Je pense que ça n'est pas ce qui reste, mais ce qui attire parfois de nouveaux bénévoles qui n'ont absolument rien à voir avec les églises en règle générale. Pas d'église chrétienne, pas l'église, pas la foi protestante, mais qui sont attirés par cette histoire et ce qui semble être la naissance de la CIMAD, née à cet endroit-là avec les jeunesses protestantes, c'est une forme de foi en l'homme et une rigueur dans la manière de développer notre mouvement. Par ailleurs, il est vrai qu'en 2019, nous avons, pour les raisons que nous venons de dire, parce que nous accueillons beaucoup de non-protestants, nous avons déplacé le fait que la CIMAD travaillait au nom de l'Évangile libérateur. Nous l'avons déplacé de l'article 1 au préambule. Et pour moi, c'est presque plus fort, parce qu'on dit que c'est ça qui nous a mis en mouvement, mais nous, quelque part, nous ne sommes pas dans c'est pas une injonction d'être vraiment là, donc c'est ce qui nous a mis en marche, et que maintenant, dans cet article 1, c'est quand même un accueil inconditionnel, quelles que soient les origines, la religion, les idées politiques, et ça, un accueil inconditionnel, on dit d'où on vient, mais on ne dit pas que c'est obligé ou que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une injonction. Pour moi, c'est une ouverture extrêmement laïque en se disant quand même que voilà, c'est là que nous sommes nés.
Et donc, on va rentrer dans le concret de la CIMADE. Donc, l'action principale ou les actions principales, rapidement résumées, parce que je suppose qu'on en aurait pour très longtemps à expliquer tout ce que vous faites. Mais votre but principal par rapport aux immigrés, c'est quoi ?
Alors, par rapport aux personnes qui sont déplacées, immigrées, émigrées, déboutées de l'asile, qui demandent l'asile, parce que quand on parle de d'immigrés, c'est très très vaste. Quand on parle d'étrangers, d'immigrés, il y a un certain nombre d'immigrés qui sont français. Donc déjà, au niveau du lexique, c'est toujours un peu compliqué de se situer. Alors, quelle est notre ligne première? Parce que vous essayez de me dire que je suis un peu trop bavarde. Donc,
Non, il ne faut pas interpréter mes paroles. Non, pas du tout.
Bah alors, merci beaucoup, parce que c'est vrai que quand on connaît bien un mouvement, on a toujours envie d'en dire plus.
Mais c'est très bien.
Et donc, notre idée première, c'est de défendre la dignité des personnes qui ont dû quitter leur pays. Et c'est pour ça qu'au terme d'immigrés, même de déplacés, on choisit le terme d'exilé. Mm-hmm. Parce que, voilà, depuis quelque temps, j'entends une revendication qui pourrait être le droit d'exil. Parce qu'au fond, nous ne savons pas ce qu'il peut nous arriver sur notre territoire avec les changements climatiques. Peut-être un jour serons-nous exilés. Et alors, que se mettre dans l'état d'esprit que l'exil, c'est un droit qu'on doit défendre. Et donc, la CIMADE, c'est le respect de la dignité des personnes, d'où qu'elles viennent. Je pense que ça, c'est pas la déclinaison en action, c'est vraiment l'idée principale. Et qui en découle sur notre territoire en France, c'est la défense des droits des personnes étrangères qui ont un projet de vivre sur notre territoire.
Et alors, vous les aidez, vous les accompagnez dans les démarches légales, vous les accompagnez comment ?
C'est vaste là aussi, mais comme vous me dites le dédale, dans le labyrinthe de loi, puisqu'on peut dire, alors suivant comment on compte, c'est à peu près une loi tous les 2 ans, dès qu'un gouvernement change, il faut qu'il y ait une nouvelle loi sur l'immigration. Alors asile-immigration, depuis 2024, on est sur la loi dite Darmanin, mais on peut en compter une quarantaine, parce qu'on peut ajouter les circulaires qui viennent s'ajouter, et qui en fait, on peut imaginer que lorsqu'une personne arrive sur le territoire français, avec toutes les raisons qui l'ont poussée à l'exil, les démarches qu'il doit faire pour obtenir une autorisation de séjour, donc un titre de séjour, nous sommes dans un vrai labyrinthe de lois. Et alors, que fait la CIMADE ? Parce que c'est votre question principale. Que fait la CIMADE ? En particulier, entre autres, elle ouvre des permanences où on accueille des personnes étrangères. Donc, en gros, dans une année, c'est 110 000 personnes qui sont accueillies, pas uniquement dans les permanences, je pense qu'on parlera des autres actions. Mais donc, dans des permanences où des personnes ont des compétences juridiques, sont avec la personne qui vient demander à éclaircir sa situation. Donc, le premier travail, c'est de comprendre ensemble là où ils en sont de leur démarche, des possibles démarches qui restent, et de ce que dit la loi sur leur situation. Donc, en fait, c'est décrypter, en gros, leur situation administrative au regard de leur projet. Et ensuite, bien sûr qu'il y a des démarches un peu plus particulières, mais nous ne faisons pas les démarches à la place des personnes. Ça, c'est quelque chose de très important à la CIMADE. Nous faisons avec, et la personne reste maîtresse de son parcours migratoire et de ce qu'elle désire. Nous ne sommes là que pour donner des indications sur les portes qui risquent de s'ouvrir et la manière dont on peut le faire.
Est-ce que vous êtes une force de proposition ? Est-ce qu'on vous écoute au sein du gouvernement ou des autorités locales ? Ou est-ce que vous êtes considérés comme les gêneurs ?
Je pense que nous sommes extrêmement, nous sommes des aiguillons, donc je pense que nous gênons. Mais c'est pas ce que nous voulons. En fait, lorsque nous entrons dans un contentieux pour tel, que ce soit pour une personne, pour une démarche, pour un texte de loi, où on regarde si c'est vraiment, on va apporter une lecture compétente, si je puis dire, au niveau juridique. Et ça, la proposition, c'est à la fois lutter contre les effets pervers de cette ambiance xénophobe où on ne veut plus du tout que des étrangers s'installent sur le territoire. Donc, on va être critique. Ça, c'est le premier rôle, et donc on n'est pas toujours apprécié. Mais Nous sommes extrêmement respectés parce que lorsque nous disons quelque chose, ça n'est pas une revendication, ça n'est pas un dogme. C'est quelque chose qui s'appuie sur la vie réelle, les impacts sur les personnes que nous rencontrons et la légalité, en fait, de ce qui est proposé. Et puis, on attire sur les dangers de certaines dispositions. Je pense quand même que nous ne sommes pas énormément appréciés puisqu'on a entendu un certain nombre de décideurs, de personnes qui ont les antennes et qui critiquent quand même la CIMADE sur, elle est gênante. Mais nous avons des propositions et une en particulier parce que nous avons travaillé en interne avec différentes personnes en toute compétence, en analyse. On a mené une campagne récemment sur les papiers, c'est pas donné à tout le monde parce qu'une régularisation large et durable permettrait à tant de personnes qui sont sur le territoire et qui travaillent sans titre de séjour et qui donc quelque part sont exploitées, d'autres personnes qui ne peuvent pas accéder au travail et qui sont obligées de frapper aux portes pour un hébergement, pour l'alimentation, pour des aides diverses. Si ces personnes, on leur autorisait le travail, ils ne demandent que ça, une autonomie, vivre de son travail. Donc lorsque nous revendiquons cette hypothèse qui est quand même très loin sur ce que nous, là où nous en sommes aujourd'hui, elle projette un imaginaire important parce que on dit cette personne, elle est comme vous, comme moi, comme la personne, notre voisin. Si on lui permet de travailler, il y aura une capacité à vivre de son travail. Et quand on parle d'intégration, mais qu'est-ce que c'est que le travail? C'est la première chose, intégration, la première capacité, le premier lien. Par contre, n'excluons pas ceux qui ne peuvent pas travailler, des personnes handicapées, des personnes malades, des personnes âgées. Donc, lorsque nous disons régularisation pour tous, il y a derrière le travail, il y a aussi cette idée de regarder chaque personne et d'arrêter d'être dans le catégoriel parce que nos lois, quand je parlais du labyrinthe tout à l'heure, il y a des portes avec un titre et si vous ne passez pas cette porte-là, faut reculer, faut regarder s'il y en a une autre qui s'ouvre. On est dans des régularisations extrêmement catégorielles.
Est-ce que vous insistez dans vos argumentaires auprès de l'opinion publique, auprès des journalistes, sur les bénéfices économiques que représente l'immigration, ou est-ce que vous êtes plutôt sur la défensive face au discours d'extrême droite, au discours xénophobe? Comment ça se passe? Est-ce que vous développez des arguments, des campagnes? Est-ce que vous avez la possibilité de le faire?
Oui, on se donne la possibilité de le faire et elles sont très bien menées avec des documents qui parlent beaucoup. Mais je crois que quand je disais tout à l'heure pas dogmatique, c'est vrai que nous devons avoir des arguments. Si nous n'avons que l'argument économique, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le travail. Or, c'est un argument qui parle. Parce que un certain nombre de personnes sans papier travaillent, paient des impôts. Et ont très peu de droits sociaux. Alors là, on a vraiment besoin dans l'argumentaire de dire « Attendez, ne dites pas que les étrangers viennent sur le territoire pour avoir accès aux droits sociaux, parce que c'est faux. » Quand on regarde de près, ce qu'il reste aujourd'hui, en gros, c'est l'AME. Et on est en train de bien l'attaquer, l'aide médicale d'État, donc qui donne quand même accès aux soins, quelle que soit la situation administrative. Mais on voit comme c'est attaqué. Donc, nous avons besoin dans nos argumentaires d'avoir, je disais en tout début, de défendre la dignité des personnes, mais aussi la présence des personnes, la richesse qu'elles apportent, qu'elles soient, on vient de parler de l'aspect économique, mais c'est pas le seul. Là, c'est peut-être pas tout à fait si mal, c'est peut-être plutôt un peu personnel, mais je pense que lorsque nous rejetons l'étranger, c'est plus parce qu'il est pauvre que parce qu'il est étranger. Parce que lorsqu'un étranger a tout à fait pignon sur rue, qu'il est auteur, qu'il est musicien, on n'a pas les mêmes réticences, on n'entend pas les mêmes discours. Et donc, la pauvreté, elle vient du fait qu'on ne puisse pas donner les moyens aux gens de subvenir à leurs besoins. Donc là, on est dans quelque chose qui est... c'est un immense mensonge lorsque l'on entend dans les discours l'équation trop simple de « un étranger, c'est un délinquant et donc il est indésirable ». Mais où a-t-on vu que les étrangers étaient plus délinquants que les autres ? En fait, plus qu'un argumentaire pour dire ouvrons une régularisation large, c'est aussi arrêter de dire des mensonges, de rétablir la vérité. Les préjugés sont beaucoup plus forts que ce que nous pouvons dire. Une fois que le préjugé est installé, nous avons, même avec les capacités que nous développons pour exprimer des choses, nous avons du mal à contrer ces préjugés. Mais c'est une des raisons de vivre aujourd'hui de la CIMAD, au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accueil, l'accompagnement, il y a ce travail à faire en sensibilisation partout où nous pouvons être. Et depuis, je dois dire, quelques mois, peut-être quelques années, nous nous apercevons que nous avons des actions de sensibilisation dans des salles, mais il faut pousser la porte, donc il faut déjà être un peu convaincu. Et donc, nous sommes en train de nous dire que les actions doivent être là où sont les gens, donc sur la place publique. Et nous développons un certain nombre d'actions sur la place publique pour pouvoir rentrer en dialogue. Parce qu'encore une fois, nous ne pouvons pas dire aux gens « Oh, vous n'êtes pas gentils, vous ne voulez pas de personnes étrangères. » Mais de rentrer dans un dialogue où on remet du contact et du respect de ce que dit la personne. Si elle accepte de discuter, nous devons rentrer en dialogue.
Oui, concrètement, parce que effectivement, faire des meetings, ceux qui viennent sont ceux qui sont déjà convaincus, donc ça n'apporte peut-être pas suffisamment. Alors les actions concrètes pour convaincre les gens,
si vous permettez, Yolande, mais bien sûr, nous organisons en interne, que ce soit un colloque, un décryptage d'une loi, un film, même si ce sont des gens qui ne sont pas opposés à la présence des personnes étrangères, nous développons avec eux un argumentaire. Mmh. En regardant un film, quand on voit vivre des demandeurs d'asile dans un centre, et la difficulté lorsqu'ils ont laissé leur famille dans un pays... Ça donne une image d'un homme, d'une femme, d'une vie. Et là, ça touche et après, on peut en parler quand même. Donc, je reviens quand même à votre question, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut développer comme action dans la rue pour rentrer en contact ? Alors, depuis quelques temps, nous avons fait des formations sur, par exemple, les porteurs de parole. Donc un porteur de parole, nous sommes avec une grande pancarte dans la rue et nous essayons de discuter avec les gens qui sont dans la rue, des gens comme vous, comme moi. Et par exemple, une question, ça peut être « Vous êtes-vous déjà senti étranger ? » Où vous sentez-vous chez vous ? En quoi le numérique, qu'est-ce qu'on a perdu avec le numérique ? Des questions comme ça où on va discuter, on ne dit pas dans un premier temps, si les gens nous demandent, on dit qu'on est la CIMAD, mais on discute et ça permet d'être interpellé et de répondre à des questions qui touchent profondément. Et là, on n'est pas sur un discours tout fait il faut accueillir les étrangers où la loi, elle est vraiment insupportable pour la vie quotidienne des personnes. On est dans ce dialogue. Nous avons développé, dans l'année qui vient de s'écouler, ou peut-être 2 ans, un jeu qui s'appelle « Repas de famille », où là, on a des rôles, et il y a celui qui est vraiment anti-immigré, et donc on a développé, on donne les rôles, c'est des jeux de rôles, oui. Et on a des manières de défendre dans le repas de famille. Par exemple, oui, mais moi je suis venue avec un jeune mineur étranger qui n'est pas reconnu mineur, et je viens au repas avec lui parce que je ne voulais pas le laisser seul à la maison. Et donc il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais c'est pas possible, c'était un repas de famille, il fait pas partie de la famille et tout ça. Et donc ce type de travail qui permet de s'exprimer, d'exprimer les choses, parce que même si on est favorable, quand vous avez le rôle de celui qui dit non, je veux pas d'étranger à ma table, on s'encourage les uns les autres à discuter plus ouvertement là où nous sommes. c'est-à-dire dans une famille, dans une réunion quelconque, dans son lieu, sur son lieu de travail, sur son lieu d'engagement syndical ou autre. Et ça fait partie de ce que nous développons. C'est ce que nous appelons la sensibilisation, voilà, muscler un peu notre sensibilisation, parce que il ne faut pas que nous soyons en surplomb par rapport à ceux qui ne seraient pas d'accord avec nous, mais il faut que nous rentrions vraiment. La rencontre est importante avec les personnes étrangères, mais la rencontre est importante avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et ce n'est pas toujours facile de les trouver, parce que nous avons des cercles de silence où, dans beaucoup de villes de France, où nous nous mettons en cercle, nous gardons une demi-heure de silence, nous faisons une prise de parole au début pour dire actuellement qu'est-ce qui se passe, 40 000 morts entre 2014 et 2024 en Méditerranée. Il faut le dire. Alors, je ne sais pas si ça fait changer d'opinion, mais il faut le dire. Ensuite, on est en silence et nous avons quelques personnes d'entre nous qui vont à la rencontre des passants, des gens, voilà, des passants qui sont dans la rue. Et nous pouvons constater quand même que dans les 10 dernières années, il y a eu une évolution. On nous évite parce que les gens ont peur d'être accostés. Mais quand il y a des rencontres et des discussions, c'est vraiment, mais super important. C'est pas le nombre qui compte.
Et alors, en conclusion, vous faites partie de la Fédération protestante de France. On a parlé donc de l'origine protestante du mouvement. Pourquoi faire partie de la Fédération protestante de France? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Je pense qu'on apporte. Je pense que notre voix apporte à la Fédération protestante de France. Et en contrepartie, quand on est en dialogue, dans cette grande maison, nous sommes déjà venus rencontrer la Fondation du protestantisme, la FEP, hein, avec qui nous avons discuté. Nous avons,
FEP, c'est la Fédération de l'entraide
protestante. Voilà. Nous participons au groupe accueil de l'étranger, où nous rencontrons des gens qui interviennent d'une autre manière que nous. Et nous partageons, nous mutualisons une manière de faire. Et puis, nous pouvons envisager des projets. Je parlais de synergie à l'intérieur de la CIMAD, mais là aussi, c'est une synergie. Donc, je pense que nous apportons, avec ce que nous faisons, une voix. C'est une voix qui est écoutée, je crois. Et nous avons besoin des autres pour parler de ce que nous faisons et de la perception que les uns et les autres ont de ce que nous revendiquons.
Alors, comment les autres protestants peuvent vous aider concrètement?
Alors, La première chose, c'est ce dont j'ai parlé, ce dialogue, cette manière de construire éventuellement des projets, de partager la vision de la société aujourd'hui. Que se passe-t-il avec ce mésaccueil des personnes étrangères? C'est important d'en parler les uns avec les autres. Il peut aussi, dans les églises, enfin moi je suis de Clermont-Ferrand et l'église protestante unie de France, nous permet une fois dans l'année d'animer un culte, et là on peut parler. On a aussi le culte de rentrée où la CIMAD a une parole avec les autres, l'intervention en prison, les interventions dans les hôpitaux, et on se connaît mieux et on sait comment on peut accompagner finalement des personnes. Donc ça, c'est très important d'avoir, je parlais de parole, de partage de parole, de partage de connaissances, de mutualisation. Mais aussi, je pense que la CIMAD est une association loi de 1901, et comme beaucoup d'associations, depuis quelques mois, il y a une petite attaque quand même sur le monde associatif. La liberté, les libertés associatives sont quand même un peu écornées. Et au regard de ça, nous avons moins de moyens financiers aussi pour faire face à tout ce que nous voulons faire. C'est pas nous enrichir et en mettre dans un panier, dans un trésor quelque part. C'est pour pouvoir faire fonctionner le mouvement et apporter ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Et donc oui, on peut nous aider en faisant des dons. Alors ça fait un peu vénal de dire ça, mais en fait c'est une aide qui est quelle que soit la hauteur du don, qui apporte les moyens aux uns et aux autres. C'est vrai pour les églises, hein, c'est vrai pour d'autres œuvres et mouvements, mais c'est vrai pour la CIMAD. Et puis on peut aussi venir s'engager comme bénévole, même si c'est pas pour l'éternité, ça peut être pour quelques mois, pour quelques années, et à quelque niveau que ce soit. Le don matériel, le don de soi quelque part, quelques heures par semaine, et puis relayer comme vous venez de faire, nous permettre de nous exprimer.
Bien, merci beaucoup Monique Guyot-Berny d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous présidez la CIMAD et qu'on peut trouver plus d'informations sur votre site internet lacimad.org. Je remercie nos auditeurs à qui je dis à bientôt pour découvrir une nouvelle facette de protestants au pluriel.
Merci Yolande.
Protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.